suis d'accord avec toi, c'est un nouveau départ parce que j'ai repris confiance en moi. D'ailleurs, j'écris plus des choses noires dans mon cahier, j'écris des choses plutôt positives.
Thomas est une bonne patte, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il y a du chat en lui. Et comme les chats, Thomas a eu plusieurs vies, dont une, parisienne, dans le journalisme. Puis une autre, moins fun, faite d'idées noires et de jobs alimentaires. Aujourd'hui, Thomas a 42 ans et après un passage en insertion de quelques mois à la brasserie Tête Haute, aucun doute qu'il soit retombé sur ses pattes.
Oh oh. C'est un podcast qui t'embarque au cœur d'un brassin éphémère et d'une histoire singulière. Un brassin pour dire haut et fier qui l'on est. Parce qu'à la brasserie Tête Haute, on pense que chaque récit partagé nous fait avancer collectivement. Des bières et des histoires à l'image de celles et ceux qui les brassent, franches, chaleureuses, intrépides, parfois déroutantes, mais toujours rafraîchissantes.
Dans ce podcast, il sera question d'empattage et d'empathie, de droit à la paresse, de triples bien houblonnés et de Jean Rochefort.
Tu te rappelles ce qu'on brasse ou pas ?
La recette.
C'est une double IPA. Ah,
là, on est même allé plus loin encore.
C'est une triple.
Triple IPA.
C'est possible, ça.
C'est,
ben,
c'est d'accord. Possible. C'est possible, tout est possible. Du coup, on est parti sur une. T'aimes beaucoup la triple.
Oui.
Enfin, t'aimes bien la triple.
Oui, bien, ouais.
Voilà, les bières qui ont du corps, tout ça. Donc, on est vraiment parti sur une base de triple façon belge avec. Plein de maltes différents, on a de l'orge, de l'avoine, du blé, du seigle, on a voilà, plein de choses dedans pour donner justement une belle rondeur du corps à cette bière. Et puis derrière, c'est une bière qu'on va houblonner plus que de raison, plus que ce qu'on fait en tout cas d'habitude sur des triples belges, parce que t'aimes bien l'IPA aussi. C'est ce qui était ressorti quand tu as discuté avec Aude. Et donc, voilà, on est parti sur une triple IPA. On ne sait pas trop comment la catégoriser. Triple houblonnée, quoi. Enfin, voilà, une triple bien houblonnée.
En tout cas, ça va être une grosse binette.
Une grosse binette. Merci, Fabien, pour le vocabulaire technique. En tout cas, une bière de tempérament, ce qui va plutôt bien à Thomas. C'est Aude qui va nous parler du style.
Alors là, on est sur un style qui est très récent. Hein. Je pense que ça date à peu près des années 2000. On est au croisement entre une triple, une bière belge, donc une bière qui va être plutôt blonde, forte en alcool, forcément. On va être autour de entre 8 et 10 degrés d'alcool. Et dans cette triple, on va faire un bel houblonnage. On va venir ajouter pas mal de houblons pour qu'on vienne sur un style qui va se rapprocher aussi d'une IPA. Voilà, sauf qu'une IPA, presque une Imperial IPA, parce qu'on sera assez fort en alcool. Donc elle va avoir à la fois ce côté très rond, un petit peu alcooleux des triples belges, et en plus on aura ce côté très aromatique des IPA. On va utiliser cette levure belge qui va avoir ses notes un petit peu spécifiques de la levure, qui va être le petit côté clou de girofle, de temps en temps ce petit côté banane et ce côté poivre.
L'empattage. Et donc, qu'est-ce qu'on met dans la cuve ?
On va commencer par mettre de l'eau dans le fond de la cuve. Donc là, qui dit bière triple forte en alcool dit beaucoup de grains. Si je dis pas de bêtises, en tout, on va mettre à peu près 500 kg de grains pour 1400 litres d'eau. Qu'on est au taquet de ce qu'on peut mettre dans la cuve, quoi. Donc tu vois, on a plein de choses, on a de l'orge ici. Ça, c'est vraiment notre orge de base. C'est un orge, un malt pâle. Ça va être une bière plutôt blonde, légèrement dorée, tu vois. Là, on a un malt un petit peu caramel. Et puis là, après, on a des trucs qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Là, on a du seigle.
Ah oui.
Là, c'est vraiment une autre céréale, maltée aussi.
J'ai envie de demander à Thomas si on peut faire pareil avec lui. Si c'est OK qu'on se penche au-dessus de lui comme au-dessus d'une cuve d'empattage pour voir ce qu'il y a dedans.
Oui, ça va. Puis en plus, je me suis bien empâté au fil des années. Donc je pense qu'il y a matière à voir. Non, plus sérieusement, vu que j'ai pas mal travaillé mon CV et que j'ai fait un bilan de compétences il y a quelques années, au moins là-dessus, je sais un petit peu mes forces et mes faiblesses. Donc je dirais l'empathie, parce que voilà, c'est dans ma nature. quand on me dit des choses, je les prends quand même plutôt à cœur. Et puis surtout, j'aime communiquer avec les gens. Quoi. C'est vraiment, si je pouvais être payé à faire ça, ça serait super. Hein. Parler avec les gens, c'est vraiment une belle activité, apprendre à les connaître. Et puis, je dirais aussi la créativité. C'est en train de revenir. J'ai une période dans ma vie où ça avait disparu, mais j'étais un peu plus noir. Et puis là, je suis content. La créativité revient. Donc ça, c'est super. Et puis, j'ai envie de dire, de temps en temps, la paresse, parce que ça aussi, avec la maturité, d'être toujours en mouvement, je me suis dit, ça va. On a le droit à la paresse aussi. Le travail, c'est bien, mais être assis, contempler la Loire, passer un moment avec ma fille devant l'océan ou dans un parc, à rien faire, je trouve ça génial.
La filtration.
Ouais, un premier ajout avant l'ébullition. En fait, au début de la filtration, c'est pour ça que ça sent déjà le houblon. L'idée, c'est vraiment de préparer le terrain aromatique de la bière. Donc en fait, on va en mettre à plusieurs étapes. Et le houblon, selon le moment auquel on le met, il apporte pas forcément les mêmes arômes. Donc là, on va essayer d'aller chercher la plus large palette possible d'arômes sur ce houblon-là. Donc c'est le même houblon, mais mis à plusieurs moments différents.
Et comment il s'appelle, ce houblon ?
Il s'appelle Equanote.
Filtrer, c'est sélectionner ce que l'on veut garder. Thomas a fait ça assez tôt dans sa carrière professionnelle. Quitte à laisser derrière lui le métier pour lequel il s'était formé, le journalisme.
C'est mon premier métier. Quand j'étais étudiant, j'écrivais dans le journal régional. Je vais faire de la promo pour la ville où j'ai grandi, Thouars dans les Deux-Sèvres. Et j'ai été formé par l'un des derniers journalistes qui ne sortait pas d'école de journalisme et qui avait été dans une première vie bûcheron. Et donc, un parcours de vie extraordinaire. Juste à l'écouter, on apprenait beaucoup. Et après, donc, j'ai fait des études supérieures et j'ai été dans l'une des 13 grandes écoles, comme on dit, parce qu'il y a 13 écoles reconnues par la formation, par une formation de journaliste, en plus d'être reconnue par l'État. Et donc, j'ai commencé dans la presse régionale. Et j'ai un petit peu bougé à la Nouvelle République, à Ouest-France. Après, j'ai eu la chance de partir 6 mois à La Réunion. Et je suis revenu en métropole, dans le Nord. C'était assez dur, après La Réunion. Et le parcours de journaliste s'est terminé chez France Télévisions. Alors, je n'étais pas à l'antenne, mais je faisais en sorte que tous les écrits, les liners, c'est-à-dire ce que vous voyez en bas d'un JT, d'un journal télévisé, toutes les infographies, et puis lorsque à l'époque c'était David Pujadas ou Élise Lucet demandaient des inscriptions, enfin voilà, il fallait qu'il n'y ait aucune faute d'orthographe. Voilà, donc ça c'était mon parcours de journaliste. À côté, j'ai toujours travaillé bénévolement, puis un petit peu payé avec mes copains de Sourdes Oreilles, dont je fais de la pub, qui est une boîte de production visuelle maintenant basée à Nantes et à Bagnolet en région parisienne. Et puis une petite fierté, vu que tête haute et. Dans le domaine de l'inclusion, le journal Kaizen, qui est le magazine de la bonne humeur, comme ils se définissent, je crois que c'est un bimestriel, si je ne me trompe pas, eh bien, durant le confinement, j'habitais à Rezé à l'époque, et ma fille était toute petite, elle avait 3 ans, et on allait voir les vaches qui sont le long de la Sèvre nantaise, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être un sujet de bonne humeur. Et j'ai écrit la rédaction et donc j'ai fait une double page. C'était une fierté de pouvoir aussi parler de Nantes dans un média et surtout des nouvelles positives. Quoi.
Qu'est-ce qui fait que tu quittes le journalisme ?
Tout à l'heure, je parlais de l'ego des journalistes. Hein, j'en ai eu pas mal comme la plupart de mes confrères. Mais là, vraiment la télé, je ne dirais pas de nom, mais c'était plutôt insupportable. Il y avait des gens, je ne veux pas dévoiler des secrets, mais des gens ont envie de leur dire « prenez un peu moins de drogue, allez voir un petit peu la campagne de temps en temps, puis respirez, quittez Paris ». Et surtout, je ne trouvais plus de sens parce que je n'allais pas sur le terrain. Et je suis quelqu'un qui a besoin du terrain, donc c'est pour ça qu'après, j'ai été intervenant dans un service jeunesse en région parisienne, à Saint-Ouen. Et c'est des quartiers politiques de la ville, donc difficiles, comme on dit. Moi, j'arrivais avec ma petite tête de blanc athée. Donc, on est confronté à deux mondes et c'est vachement bien parce qu'eux ont appris de moi et inversement. Et j'étais également intervenant dans des collèges où on faisait des blogs. Et, Et ça, c'est ma petite fierté, je dirais même ma plus grande fierté professionnelle, c'est que j'ai réussi à faire venir Tomer Sisley. Et Tomer Sisley est franco-israélien, donc juif. Et moi, ça me posait un vrai problème d'entendre des propos antisémites. On était en 2013, et je disais aux jeunes qu'ils n'avaient pas le droit de parler comme ça. Et je me suis dit, il faut que j'invite quelqu'un de connu et juif. Tomer Sisley, son agent, m'a dit, il trouve l'idée super. Donc, je tiens à le remercier, parce que pour ces adolescents, c'était une super expérience. Il leur a raconté des choses horribles qu'il avait vécues quand il était, lui, adolescent. Il avait vécu l'antisémitisme à Berlin. Voilà, son père travaillait là-bas à l'époque. Et bah moi, voilà, je me suis dit, j'ai été ce lien entre des jeunes, un acteur connu, et puis leur montrer que, comme disait Tomer Sisley, bah, qu'on soit juif, musulman, athée, catholique, bouddhiste, tout ce que vous voulez, on est des êtres humains, donc calmez-vous, quoi.
L'ébullition.
Et là, on se dirige tranquillement vers la fin de l'ébullition. Donc après ça, eh ben, Whirlpool, on va concentrer tous les houblons dans le fond de la cuve et on va pouvoir la refroidir et l'envoyer en fermenteur. Et puis lui ajouter les levures, bien sûr, parce que c'est quand même elles qui vont faire la bière au bout du compte.
Je crois que chez Thomas, c'est un peu pareil. Quand il est arrivé à tête haute, il sortait doucement d'une période d'ébullition. Une ébullition dont il venait d'apprendre qu'elle avait un nom.
Pour faire bref, j'ai rencontré la mère de ma fille dont je suis séparé à l'époque de France 2. Donc j'étais parisien. Et moi, j'ai toujours été très fier d'être parisien. C'était une très belle époque de ma vie. Donc, comme j'ai dit, j'étais intervenant web journaliste. À côté, avec mon auto-entreprise, il fallait joindre les deux bouts parce que le secteur du social ne paye pas. J'écrivais, j'étais nègre, comme on dit. J'écrivais pour d'autres personnes. Et ensuite est venue l'arrivée à Nantes. Et là, c'était un projet de famille. Sur le papier, tout allait être beau. Et puis maintenant, j'arrive à en parler. Tu vois, je le cachais durant un moment. C'est à ce moment-là qu'on m'a décelé une bipolarité. Donc, passage par l'hôpital psychiatrique. Comme tous les gens qui sont bipolaires, il faut un diagnostic. Donc là, c'est compliqué. Je passe sur ma vie personnelle parce que je n'ai pas trop envie d'en parler, mais séparation pour faire très court. Et puis là, c'est le, on va dire, un peu le néant professionnel. Perte de confiance, trouver un bon traitement pour la bipolarité, ce qui est le cas aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'en parle. Mais avant, ça a été compliqué.
Ça veut dire quoi, compliqué ?
Du coup, avec la bipolarité, quand on n'a pas de traitement, on est très très chaud. Hein. On peut monter très très haut. Et sincèrement, ça peut paraître bizarre si des médecins entendent ça. Mais des fois, je regrette presque cette période où pourtant j'étais pas bien. Parce qu'on est ultra créatif, on se croit le roi du monde. Par contre, pour les autres, c'est insupportable. Parce qu'on ne dort plus, on est en hyperactivité. Donc oui, être bouillant, j'ai bien connu. Ouais, ouais. Et ça fait du bien de l'être moins.
Thomas peut en rire aujourd'hui. Avant cela, le parcours a été long.
Et donc là, j'ai même été distributeur de prospectus parce que mon auto-entreprise ne fonctionnait pas, vu que j'avais aussi perdu confiance en moi. Et j'ai fait des jobs sous-qualifiés, comme on va dire, sans être pédant pour les gens qui font ce métier-là, mais j'étais outliner. Qu'est-ce que j'ai fait ? Distribution de prospectus, ça durait malheureusement longtemps. J'ai écrit des choses qui me plaisaient pas du tout, mais il fallait bien faire bouillir la marmite. Mais heureusement, j'avais pas ma signature. Après Outliner, je me suis dit qu'il fallait un peu reprendre confiance en moi, même si je l'avais perdu cette confiance. Et je suis allé à l'université de Nantes et je cherchais du sens. J'ai pas trouvé de sens, donc j'ai démissionné. Après, j'ai été surveillant dans un collège à Bouguenay parce qu'il fallait faire bouillir toujours la marmite. Et j'ai tenu 2 mois. Et là, c'était toujours un peu compliqué avec la bipolarité. Et quand je suis arrivé chez Tête Haute, déjà, ça allait mieux. Mais voilà, en fait, Tête Haute, pour moi, ça a été un moyen de trouver du sens. Il me fallait un contrat qui dure longtemps, ce que je n'arrivais plus à faire. Et donc, je vois sur la plateforme de l'inclusion, une plateforme de l'État, je vois qu'une entreprise, donc au Cellier, j'ignorais où c'était en tant que Nantais, et voilà, ils brassent de la bière. Je me dis, oh, c'est génial. J'avais écrit un article sur un brasseur de bière. D'ailleurs, un super mec qui s'appelle Jérôme Crépieux et qui brasse la Mire à Romainville. Je lui fais une petite promo. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, donner de la vie à des céréales pour que ça devienne de la bière, quelque chose que j'aime bien boire, et ben, je me suis dit, super. Et donc, bah, j'ai poussé la porte de tête haute, vraiment au sens propre. J'avais envoyé mon CV et je suis tombé sur Samuel, qui m'a dit, qui m'a tutoyé tout de suite et qui m'a dit bah, c'est vachement bien que tu aies poussé la porte. C'est vrai qu'on cherche quelqu'un. On va te mettre en relation avec notre conseillère d'insertion professionnelle. Et puis, bah, on verra si c'est possible. Et cinq jours après, j'ai rencontré Aude. Cinq jours après, j'étais avec les bottes et le t-shirt tête haute. Ça y est, voilà, c'était lancé. Bah, chez tête haute, des fois, les collègues ont vu, même si mon traitement commençait à se stabiliser, ils me disaient « Oh là, t'as pas une très bonne tête ». Et c'est vrai qu'il y a des matins, bah, on est bas, on a du plus que les autres. Quand les autres disent « je fais une petite déprime », en fait, là, quand on est bipolaire, on vit la dépression. Et la dépression, le matin, je ne vais pas dire que j'arrivais tous les matins chez tête haute en me disant « ouais, super, je brasse de la bière ». Il y avait des matins, je me disais « lève-toi, tu vas travailler, tu vas gagner ta vie. Tu as une fille, elle n'a pas besoin d'un père qui soit au fond de son lit. Mais c'est très dur. C'est vrai que des fois, on est tiré vers le bas avec cette maladie. Mais quand on trouve le bon traitement, bah après, on devient... oui, on se retrouve dans la norme. Il y a un acteur que j'adore depuis mon enfance, c'est Jean Rochefort. Et bah, ça m'a fait du bien de tomber sur YouTube complètement par hasard sur des biographies de Jean Rochefort, enfin des gens qui témoignaient. Et quand j'ai appris qu'il était bipolaire, je me suis dit bah, super en fait, il y a des mecs que j'adore et qu'ils sont. Et j'ai appris le mois dernier en lisant Libération que Michel Gondry a fait son coming out entre guillemets. Et voilà, il a dit ouais, je suis bipolaire et ça m'empêche pas du coup d'avoir une vie pro quoi. Donc moi, je trouve ça bien, c'est aussi pour ça que j'ai pas peur de te le dire, Tiffen, c'est que je pense que c'est pas une maladie grave, c'est grave tant qu'on n'est pas diagnostiqué, mais une fois qu'on l'est, qu'on est stabilisé, on vit avec, quoi.
La fermentation. La fermentation, c'est le temps long, le temps de la maturation. J'en profite pour demander à Thomas ce qui le fait kiffer.
Alors en premier, c'est l'écriture, parce que dans ma première vie professionnelle, c'était d'être journaliste. Et même si je faisais de la radio quand j'étais jeune, bénévole, je voulais écrire. Et j'écrivais, alors je le disais pas parce que sinon on allait se moquer de moi à l'école, mais j'écrivais des poèmes quand j'étais adolescent. Et vraiment l'écriture, bah, c'est là que je peux m'épanouir le plus, parce que je pense que c'est l'une de mes qualités premières. Je sais bien écrire, on me l'a dit, et ça me fait du bien... Justement, quand j'ai des petits coups de mou, ben, j'écris juste pour moi. Voilà, dans un carnet, comme font plein de gens. Et ça fait du bien. Ça vide la tête, on va dire. Moi, je me souviens avoir discuté avec quelqu'un qui était dans le milieu de la psychologie, qui m'avait dit « ça te ferait beaucoup de bien ». Et donc, ben, c'est vrai que ça m'en a fait beaucoup. Et c'est un peu comme une démarche, quelqu'un qui va acheter des baskets pour aller faire du sport. Ben là, moi, j'ai vraiment acheté un beau cahier dans une papeterie. J'ai mis le prix, un beau stylo. Et voilà, quand j'ai commencé au début, je me disais, oh là, c'est peut-être un peu narcissique. Puis de toute façon, je me suis dit, bah non, c'est juste pour moi et ça fait du bien. Et on peut écrire toutes les horreurs qu'on veut quand on va pas bien. Ça c'est vraiment libérateur, je dirais. Mais je pense qu'en fait, l'écriture, quand on la garde pour soi, il n'y a pas besoin de bien écrire. Par contre, quand moi j'écris, ça m'arrive encore de temps en temps, des petites tribunes, j'estime que c'est important de donner mon avis parce que j'ai pas envie de laisser la place, surtout vu l'époque, aux extrêmes. Donc je me dis de temps en temps, bah, ça fait du bien d'écrire des choses plutôt positives. Et voilà, j'essaye de les publier. Alors ça marche pas souvent, mais quand ça marche, c'est toujours sympa, quoi. La radio, c'est la part de journalisme la plus forte en moi, parce que j'ai eu la chance de commencer à 14 ans comme bénévole sur une radio FM dans ma petite commune à Thouars, dans les Deux-Sèvres. Et ce qui m'a fait réaliser l'importance de la radio dans ma vie, c'est que l'un de mes meilleurs amis, je lui fais un gros coucou, Manu, m'avait dit, quand j'étais à Paris, qu'on se voyait toujours de temps en temps, mais même si lui arrive à Nantes quand il avait 18 ans, il me dit « Thomas, un jour, il faudra qu'on refasse de la radio ensemble ». Je lui dis « Bah oui, mais quand, comment ?» Il m'a dit « Avec les podcasts, on y arrivera ». Et quand je suis arrivé à Nantes, du coup, j'allais pas bien du tout, on venait de me diagnostiquer bipolaire. Et Manu, ça a été ma respiration, parce qu'on a fait un podcast qui s'appelait « 12 minutes 34 ». Et c'était du grand n'importe quoi, un petit peu comique des fois. On était écouté par 98 personnes, c'est pas une blague. Donc voilà. Et puis, comme quoi, il a bien fait d'investir dans du matériel radio, parce qu'en poussant la porte, c'est lui qui a poussé la porte de E-Radio, la radio de l'Union européenne. Et maintenant, on a une émission avec un troisième compère, Xavier, tous les mois, qui s'appelle IPM. On fait découvrir du son indie, en gros, qui ne passe pas sur les FM, enfin les radios généralistes, quoi. Et voilà. Et la dernière chose sur la radio, c'est j'adore discuter avec ma fille qui a 6 ans et demi. L'autre jour, je lui disais, il faut que tu réalises que dans la vie, c'est important de s'amuser. Ce à quoi elle m'a répondu, oui, mais il faut aussi travailler parce que maman, elle travaille. Je dis, oui, c'est vrai qu'on travaille, t'as raison. Mais je dis, si tu peux t'amuser en travaillant, quand tu seras grande, t'auras tout gagné. Et je dis, il faut essayer de vivre ses rêves. Il faudrait que tu arrives à faire ça, ça serait super. Et elle m'a dit, j'y avais pas réfléchi, elle dit, mais c'était quoi ton rêve quand t'étais petit? Et là, c'était une évidence, on était dans la voiture et je me suis dit, j'ai pas réfléchi, c'est venu naturellement. J'ai dit, moi je voulais vivre de la radio. Et donc ça n'a jamais été le cas parce que j'étais journaliste, mais jamais journaliste rémunéré pour la radio. Donc je me dis, peut-être qu'un jour j'arriverai à mon rêve, quoi. Donc voilà, si un chef d'antenne entend ça, je suis preneur pour devenir animateur radio professionnel.
L'encanage.
Si être mis en boîte, c'est être un peu muselé et ne pas pouvoir exprimer ce qu'on veut, oui, ça m'est arrivé. Et là, on peut envoyer des fleurs à tête haute. C'est que ici, c'est une entreprise privée, hein, faut pas l'oublier, faut dégager des bénéfices et tout. Il y a des jours où c'est pas très drôle parce que on fait beaucoup de mises en bouteille, mais on nous parle toujours bien. Et c'est vrai que c'est ce qui fait tenir aussi les jours où on a un peu du mal à se lever, c'est qu'on se dit au moins je vais avoir un patron qui va me parler correctement. On peut prendre le café avec eux, et ça c'est important. Et oui, il y a eu des périodes de ma vie où je gagnais beaucoup mieux ma vie, c'était beaucoup plus confortable à plein de niveaux, mais je savais que j'allais croiser ce petit chef Fayon et du coup là je bouillais intérieurement, mais voilà, il y a la hiérarchie, donc faut respecter. Et donc oui, j'étais mis en canette.
L'étiquetage. Est-ce qu'il y a des étiquettes qu'on a pu peut-être te coller et qui t'insupportent?
Je suis quelqu'un d'assez politisé et je m'estime de gauche avec des valeurs écologistes. Et ouais, je suis plutôt fier de dire que j'étais chez les Verts avant que l'écologie soit à la mode. Mais aujourd'hui, je suis comme beaucoup de personnes, c'est même plus blasé, c'est que je suis écœuré des mouvements politiques. Là, quand je vois la position des partis de gauche, de plusieurs partis de gauche autour du conflit israélo-palestinien, je trouve ça écœurant. Donc, pour en revenir aux étiquettes, quand je parlais avec des gens de droite, on me disait que j'étais un gauchiste. Et quand je parle avec des gens de gauche, on m'a souvent qualifié de personne de droite. Je pense qu'il y a une étiquette, mais qui me plaît, c'est quand on me dit... c'est un collègue qui m'avait dit ça quand j'étais dans une rédaction. Il m'a dit « t'es un alternatif ». Et c'était le plus beau compliment, la plus belle étiquette. Voilà, cette étiquette d'alternatif, ça me plaît parce que c'est nous, à notre petite échelle, qui pouvons faire changer le monde. Ça, j'en suis persuadé.
La livraison. Tu as quitté la brasserie il y a un mois, Thomas, à peu près. Est-ce qu'on peut parler de nouveau départ?
Oui, je suis d'accord avec toi. C'est un nouveau départ parce que j'ai repris confiance en moi. D'ailleurs, j'écris plus des choses noires dans mon cahier. J'écris des choses plutôt positives. Et ça me fait quand même pas vivre, hein, financièrement parlant. Mais Tête Haute m'a permis d'accepter l'idée que je pouvais complètement changer de cap. Ça faisait un moment que je me disais, ça serait bien que tu ailles dans le social. Alors, mes proches me disaient, mais oui, avec ta nature, tout ça. Mais j'hésitais. Et là, je me dis, on verra de quoi l'avenir sera fait, mais travailler dans un EHPAD avec des seniors autour de la mémoire, donc vu que j'aime écrire, les faire écrire, qu'ils racontent leur récit de vie pour qu'il y ait un témoignage auprès de leurs enfants et petits-enfants. Voilà, donc je me dis, j'ai la chance de pouvoir intégrer une formation qui va me permettre de faire des stages en immersion. Donc j'ai hâte, là je commence dans 10 jours, et je me dis, super, j'espère que ça va conforter la représentation que je m'en fais. Et dans ce cas-là, c'est un nouveau départ et reprise d'études avec un contrat de professionnalisation pour évidemment assurer les arrières, comme on dit. Mais voilà, donc enfin, je me projette vers un autre métier. C'est un exercice, quand on m'a proposé d'avoir ma tête sur une canette, c'était pas un égo trip, je me suis pas dit « waouh, ouais, super ». Ma première pensée, ça a été de me dire « le jour où je serai plus là, je vais faire une boîte avec des souvenirs pour ma fille et je vais mettre une canette vide ». Et sachant que je suis quand même un bon vivant et que sans me prendre des cuites tous les jours, j'aime bien boire une bière avec mes copains, la bière, ça fait partie de moi. Et elle me le dit, elle fait « ouais, t'es un gros ventre, papa, parce que t'aimes la bière ». Et donc, je me dis, voilà, ça a été cette idée de souvenir. Pour moi, ça me laissera un souvenir aussi de ce passage chez Tête Haute. Et me raconter, sachant que c'est toujours moi qui étais de l'autre côté à faire des portraits. C'est ce que je préférais dans la presse écrite. Je me suis dit, ça va être rigolo. Il y aura peut-être un côté, pour les plus anciens, Mireille Dumas, Confidence. Et j'avoue que ça fait du bien, en fait. On se raconte et puis... Là, je réalise que j'ai fait pas mal de choses dans ma vie et je ne l'avais peut-être pas forcément réalisé. Là, je me dis, ouais, en fait, j'ai un CV, mine de rien. Et puis, il y a des idées qui me venaient et en parlant. Je me disais, bon, là, il faut être synthétique, mais il y a plein de choses qui ressortent. Et ouais, en fait, Tiffen, t'es un peu psy.
Merci, Thomas, de t'être livré avec autant de sincérité. Bonne continuation à toi. Celles et ceux qui croiseront ta route auront beaucoup de chance.
Oh oh. Retrouvez tous nos épisodes sur notre site tête-haute.fr. Abonnez-vous, partagez et rejoignez l'aventure du brassage social avec Tête Haute.